Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Toujours là quand il faut. Hache le talon, hache le talon, hache le talon quand il change de peau.
Achille Talon en animé, avec son gros nez et avec son voisin Le Funeste. On est assez loin de la BD de mon enfance que je lisais chez mon grand-père, la seule qui avait le droit de citer dans sa grande bibliothèque. Je me souviens notamment de l'une d'elles, Achille Talon et l'archipel de Sans un rond. Pour désintoxiquer Le Funeste, obsédé par l'argent, Chichil, comme l'appelle sa maman, l'accompagne sur l'île de Trocatouva, dans cet archipel où l'argent n'existe pas. Le rêve de Le Funeste, enfin réalisé. J'appris plus tard que l'album était une commande du Crédit Lyonnais pour sa revue interne. Ce fut aussi vers 10 ans ma première leçon d'économie. Et si l'argent n'existait pas ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming, et le soir à 17h sur leséchos.fr. Vous pouvez vous abonner, ça ne vous coûtera pas un rond, quoique paraît-il, le temps c'est de l'argent.
Mohamed Ilmaz a fait le tour du monde, sans argent dans ses poches.
Dans un monde où tout tourne autour de l'argent, partir et découvrir le monde sans un sou et être heureux pendant 80 jours sans un sou en poche, c'est quelque chose de magique.
Un tour du monde sans argent, le projet de Mohamed Yilmaz rencontré par Radio-Canada. Il se dit réalisateur de rêves. L'argent, dont il paraît qu'il ne fait pas le bonheur. J'ai toujours trouvé que c'était une maxime de riche. Mais qu'est-ce que l'argent ? À quoi sert-il ? Et peut-on s'en passer ? Dans la story, on va vous raconter aujourd'hui l'histoire de l'argent. Bonjour Benoît Sima.
Bonjour.
Vous êtes journaliste économique et vous avez publié aux éditions Les Arènes BD l'incroyable histoire de l'argent avec au dessin Tristan Garnier. Qu'est-ce qu'elle a d'incroyable déjà, cette histoire de l'argent ?
Ce qui est incroyable, c'est qu'elle est aussi vieille que l'histoire de l'humanité. En fait, nos plus lointains ancêtres qu'on appelle les sapiens, comme tout le monde le sait, déjà il y a 30 000 ans, 40 000 ans, échangeaient les formes primitives d'argent et utilisaient les codes monétaires qu'on utilise, nous, aujourd'hui, des milliers d'années après.
C'est-à-dire qu'au début, l'argent n'existait pas. Alors, comment est-ce qu'on faisait ?
L'argent n'existe pas, sauf que dans les mentalités de ses lointains ancêtres, ça existe quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, sapiens, c'est des petites tribus, vous savez, de 100, 150 individus, pas plus. Ils vivent très isolés les uns des autres. Alors, entre eux, il n'y a pas de problème d'argent. Entre eux, ils ont un système que les anthropologues appellent la dette sociale. C'est-à-dire que tout le monde sait très bien ce que chacun doit aux autres. Et c'est une forme d'échange monétaire, quelque part. Par contre, quand ils vont croiser, on va dire, des tribus étrangères, là, y a un mot qu'on utilise beaucoup en économie, c'est la confiance. Et là, ils n'ont pas confiance, parce qu'ils ne les connaissent pas. Et donc là, ils ne peuvent pas appliquer leur système de dette sociale. Donc, ils sont obligés d'inventer des formes primitives d'argent. Et la plus connue, c'est les coquillages. Et c'est pour ça que les archéologues ont retrouvé des coquillages au centre de l'Allemagne, alors que ces coquillages, évidemment, provenaient des côtes. Ça veut bien dire qu'on s'en est servi comme monnaie d'échange.
Alors ce coquillage, il a un nom, c'est le coris, et il va servir encore pendant très longtemps.
Oui, alors le coris, c'est une histoire incroyable, comme on dit dans notre collection, parce que c'est une monnaie primitive, donc très très ancienne, qui va survivre à toutes les civilisations, à tous les régimes politiques, tout ce que vous voulez. En fait, on s'en servait encore au XXe siècle, donc il y a quelques années. Et c'est même l'emblème de certains pays, sur des drapeaux, sur des banques centrales. Et ça veut bien dire que c'est une monnaie primitive qui a traversé l'histoire. Alors pourquoi elle a traversé l'histoire ? D'abord parce qu'elle a une forme très particulière, ce coquillage a une forme très particulière, qui est inimitable. Et donc du coup, très tôt, les êtres humains, les hommes et les femmes, s'en sont servis comme des pièces de monnaie, si vous voulez. Et surtout, on les trouvait dans de nombreuses régions du monde. On les trouvait en Asie, on les trouvait sur les côtes africaines, et on les trouvait en Amérique du Sud. Et du coup, ça a longtemps servi de monnaie d'échange pas internationale parce que les contacts n'étaient pas internationaux à l'époque, mais en tout cas intercontinentale. C'est la première monnaie intercontinentale.
Vous croyez qu'il m'écoutera ?
Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
À l'horizon des sapiens, ça finit par s'élargir. Hein, la population a cru. Ils ont rencontré des nouveaux contacts pour échanger. Alors, on a parlé, il y a eu ensuite le troc, hein, lorsque la confiance n'était pas là pour justement avoir cette dette sociale. La certitude, finalement, que le service qu'on a rendu à un sapiens, ben, il vous le rendra dans 2 semaines, 1 mois, 3 mois, s'il trouve, par exemple, de la nourriture dont vous avez besoin. Sont arrivées ensuite les pièces. Ça veut dire que l'argent, finalement, sous forme de pièces, est arrivé parce que la confiance ne régnait plus ?
Quelque part, oui. L'argent sous forme métallique, monétaire, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui avec ses pièces rondes, en fait, c'est un enfant de la complexité sociale. Ce n'est pas tellement lié au néolithique que tout le monde connaît, c'est-à-dire à la sédentarisation, à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. C'est plutôt lié à la conséquence de tout cela. Et la conséquence de tout cela, c'est la création des villages et puis des villes. Quand la civilisation urbanistique se met en place dans de nombreuses régions du monde, ben c'est un peu le même problème qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un problème de confiance. On habite dans des structures sociales où on ne connaît pas tout le monde. Et donc là, ben, si on n'a pas confiance, on est bien obligé d'avoir un moyen d'insertion pour échanger des biens. Et ce moyen, ça va devenir avec le temps, alors d'abord c'est ce qu'on appelle des monnaies marchandises. Les monnaies marchandises, ce sont par exemple des troupeaux de bovins. Ça avait une grande valeur autrefois, et on s'en servait pour, par exemple, en dot pour marier une jeune fille. C'était vraiment une des monnaies les plus importantes. Et puis avec le temps, on va inventer des moyens plus simples, parce que la pièce, qu'est-ce que c'est par rapport à un troupeau de bovins ? C'est plus simple à mettre dans sa poche, tout simplement. Et donc il y a une civilisation grecque, qui s'appelle la civilisation lydienne, qui au 5e siècle avant notre ère, va inventer cette nouvelle monnaie, où on trouve l'expression d'une valeur sur une face, et puis la garantie royale sur l'autre, c'est-à-dire le visage du prince régnant. Et ce prince régnant, c'était notamment... Et c'est marrant parce que son nom a traversé l'histoire. C'est le fameux Crésus.
Voilà, le père du système, hein, effectivement, avec ses pièces à deux faces et ce système bimétallique, hein, c'est ce que vous expliquez. Il y avait les pièces en or pour les grands échanges et les pièces en argent pour les actes de tous les jours. Mais avant ça, il y a eu la création, finalement, d'une unité de compte. Et là, ce sont les Sumériens qui ont fait œuvre, on va dire, de civilisation, finalement.
Oui, et c'est là qu'on voit qu'en fait, l'argent a accompagné toutes les grandes étapes de l'histoire humaine, puisque... Vous savez, les historiens célèbres disent « l'histoire commence à Sumer ». Ça, c'est la grande citation. Pourquoi l'histoire commence à Sumer ? Parce qu'on invente l'écriture à Sumer. Mais si on invente l'écriture, c'est pas pour raconter des sagas ou des recettes de cuisine. C'est avant tout pour faire de la comptabilité. Et si on fait de la comptabilité, c'est qu'on compte des valeurs. Et si on compte des valeurs, ça veut dire qu'on a inventé l'écriture pour raconter des transactions, ou en tout cas pour en tenir les comptes. Et donc, effectivement... Une des grandes étapes de l'histoire de l'argent, de la monnaie si vous préférez, c'est l'invention de l'écriture par les Sumériens. Et ces tablettes d'argile qu'on a retrouvées par dizaines de milliers en Irak, enfin que les archéologues ont exhumées, ce sont très souvent des lignes de compte.
Il faut faire les comptes, évidemment. Les comptes font les bons amis, dit-on souvent. On voit aussi que la prolifération de ces monnaies, il y avait le cycle, justement, chez les Sumériens, qui l'ancêtre du shekel, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, le shekel, qui est la monnaie israélienne aujourd'hui. La prolifération de certaines monnaies doit beaucoup aux conquêtes militaires.
Alors, oui, parce que quand on invente la monnaie métallique, on l'invente parce qu'on a des sources d'or et d'argent. Et donc, dès le départ, on établit des échelles de valeur qui font que une pièce d'or égale 10 pièces d'argent. C'est une moyenne qui a traversé l'histoire. C'est assez intéressant. Et donc, quand on a ça, on peut payer des mercenaires ou des soldats ou des guerriers pour aller conquérir le territoire d'à côté. C'est le système d'Alexandre. Hein, c'est très simple. Hein, je vais vous l'expliquer. Alexandre le Grand, qui part de Macédoine, qui va conquérir ensuite la Grèce classique telle qu'on la connaît. Et parce qu'une fois qu'il a conquis un deuxième territoire, qu'est-ce qu'il trouve sur ce territoire ? Il trouve des mines. Et donc, il extrait de ces mines encore plus d'or et d'argent. Et avec cet or et cet argent nouveau, il va payer de nouveaux mercenaires, etc., etc. Ces mercenaires vont aller conquérir la Perse, puis l'Inde. Et au bout de quelques dizaines d'années, l'empire d'Alexandre sera un des plus grands de l'histoire. Mais tout ça, ça s'est fait grâce à l'extraction de minerais avec lequel on a fabriqué des pièces pour payer. De manière, je dirais, vous savez, l'expression sonnante et trébuchante des mercenaires. Parce que les mercenaires, on ne les paie pas avec de la dette sociale ou aujourd'hui comme on ferait avec un chèque ou un virement. Il faut payer avec de l'argent qu'ils puissent mettre dans leur poche. Ça, dans l'histoire, c'est très important. Parce que dans les périodes de guerre, quand la confiance est fracturée, il faut absolument payer les gens avec des minerais précieux et notamment des pièces de monnaie.
les Sumériens, le royaume de Lydie, les conquêtes d'Alexandre le Grand, l'argent fait corps avec l'histoire et notamment l'histoire de la guerre. Vous racontez par exemple que les Mayas, qui n'avaient pas l'esprit de conquête, sont restés longtemps avec des fèves de cacao comme monnaie d'échange et pas des pièces d'or ou d'argent comme dans d'autres civilisations. D'ailleurs, Benoît Sima, pourquoi des pièces d'or et d'argent ?
Eh bien, tout simplement parce que nos ancêtres se sont aperçus très vite que l'or était le métal à la fois le plus rare sur Terre, mais aussi qui ne disparaîtrait jamais, le plus inusable. Vous avez un cube d'or ou un objet en or, il va traverser l'histoire et il ne sera jamais érodé par le temps. Et puis, il est extrêmement lourd, sa valeur est énorme, on peut en faire des dizaines de pièces qui valent très très cher. C'est vraiment le phénomène de rareté dès le départ qui définit la valeur de ces pièces d'or.
Waouh, regardez-moi ça, comme c'est joli. Mais dites-moi, George, qu'est-ce que c'est ?
C'est de l'argent, Sarah, beaucoup d'argent.
C'est extraordinaire, mais comment ça marche ?
Eh bien, Sarah, c'est très simple. L'argent est un produit qui rend heureux.
Elle a parodie d'une émission de télé-shopping sur la chaîne Comédie avec l'équipe de Brout, une grosse liasse de billets de banque, un produit qui rend heureux. Justement, quand le papier va-t-il émerger et pourquoi ?
Alors, pour deux raisons, l'une pratique et l'autre géographique. Le papier, il émerge de manière géographique dans une zone où on a inventé justement le papier. Et c'est en Chine. Les Chinois inventent le papier pour tenir leur compte, justement. Et puis, la civilisation chinoise, à un moment donné, au début de notre ère, va devenir très prospère. Et quand on est très prospère, l'économie se développe. Le commerce se développe partout, aux frontières. Et il faut donc transporter de l'argent pour faire les transactions. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on a ? C'est un peu comme dans toutes les autres civilisations du monde. On a des pièces. Alors, qui en l'occurrence, là-bas, s'appellent les sapèques. Les sapèques, c'est un mot très important dans l'histoire monétaire. C'est la grande monnaie chinoise. Vous savez, c'est les petites pièces rondes avec un trou carré au milieu. Pourquoi elles avaient un trou carré ? C'est parce qu'on les enfilait sur des ligatures et donc on transportait des sommes énormes avec ces espèces de colliers bardés de pièces. Et donc, à un moment donné, il y a beaucoup trop de pièces pour le commerce qu'il y a à faire. Et donc, les Chinois ont cette idée fabuleuse, extraordinaire, qui consiste à inscrire une dette sur un bout de papier et à la remettre à quelqu'un en échange d'une valeur future. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Alors, petit à petit, les pièces d'or vont rentrer dans les coffres de ceux qui thésaurisent, mais aussi et surtout des banques centrales. Les pièces en ferraille et les billets vont servir pour les achats de tous les jours. Et une monnaie va devenir toute puissante au XXe siècle, c'est le dollar. Et pourtant, vous le racontez, hein, cette petite monnaie exotique est partie de loin.
Elle est partie d'autant plus loin qu'au départ, il y avait au début du 19e siècle, vous savez, c'est la conquête de l'Ouest, hein, tout ça, il y avait à peu près 5000 établissements bancaires dans les jeunes États-Unis, qui n'étaient pas tout à fait ceux qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il y avait de nombreux États qui n'existaient pas. Donc 5000 banques qui étaient autant de banques qui frappaient leur propre monnaie. Enfin, c'était l'anarchie la plus totale. Même si à Washington, on avait déjà érigé le dollar en monnaie nationale, mais ça ne voulait pas dire grand-chose à l'époque. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en un siècle, on est passé du Far West anarchique à la première puissance mondiale avec le premier PIB du monde. Et donc, quand les États-Unis sont devenus, après la guerre de sécession, cette première puissance mondiale, par effet de répercussion, leur monnaie, le dollar, est devenue la monnaie la plus puissante puisque la plus utilisée dans les échanges. Elle a pris la place de la livre sterling, c'est-à-dire de la monnaie de l'ancienne puissance dominante du 19e qui était l'Angleterre.
C'est la force qui gouverne le monde. Et ces petits rectangles de papier bruissants, voilà la forme moderne de la force.
Ça veut dire que l'argent, c'est du pouvoir ?
L'argent, ça a toujours été du pouvoir. Alors en fait, l'argent, c'est deux choses dans l'histoire. C'est d'abord un moyen de communication extraordinaire entre les hommes et les femmes, parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'a jamais rien trouvé de mieux pour communiquer que d'échanger de l'argent. Et deuxièmement, c'est du pouvoir parce que dès le départ, les princes, les rois, les États, puis plus tard les démocraties ou les dictatures, si vous voulez, ont toujours cherché à s'arroger le monopole de l'émission de la monnaie. Parce que quand on possède le monopole de l'émission de la monnaie, on fait un bénéfice, puisqu'on frappe toujours une valeur de 100 alors que ça nous a coûté 90. Ça a toujours marché comme ça dans l'histoire. Et donc, la monnaie reflète forcément le pouvoir en place, puisque le pouvoir en place se finance grâce aux bénéfices générés par l'émission de l'argent.
Ce qu'on comprend aussi en lisant votre livre, c'est que Oncle Picsou, créé par Disney, c'était le symbole finalement de cette puissance de l'Amérique.
Ah oui, le personnage créé par Karl Barks, que les exégètes connaissent, donc Oncle Picsou, c'est le jumeau de ce qu'on a appelé les premiers milliardaires. Parce que les premiers milliardaires de l'histoire, ils sont américains. Donc c'est Rockefeller, c'est Carnegie, c'est des gens comme ça, du début de fin 19e, début 20e. Et ces gens-là, ils ont été les premiers à réaliser l'oracle de Karl Marx, finalement, c'est-à-dire l'accumulation du capital d'une manière énorme. Et le fait de représenter Oncle Picsou sur un tas d'or comme une montagne d'or, c'est vraiment la métaphore de ces premiers milliardaires pour qui l'accumulation monétaire n'avait pas de limite. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire, puisque, assez paradoxalement, l'argent était mieux réparti dans les classes sociales supérieures sous l'Ancien Régime qu'au XXe siècle, surtout sous régime impérialiste américain.
Quel est le dénominateur commun à toutes ces actions criminelles? C'est l'argent. Tout simplement, l'argent. Rien que l'argent. Ou pour parler le langage de ces messieurs, le fric.
En France, on sait qu'il y a une forme de jalousie aussi face à ceux qui ont beaucoup d'argent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient de la critique contre les 200 familles dans les années 30. Et puis, on se souvient aussi du discours d'Épinay de François Mitterrand en 1971 sur l'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, qui ruine et qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. C'est mal d'avoir de l'argent ?
Alors, mon avis personnel, c'est pas que c'est mal, mais mon constat, un peu comme vous, c'est qu'effectivement, on a un problème de jalousie vis-à-vis de ceux qui ont de l'argent. Et c'est peut-être dû à un autre phénomène, c'est que l'argent, c'est quelque chose d'assez tabou dans nos sociétés. Et je pense que l'empreinte séculaire religieuse a beaucoup à voir avec ce tabou qui consiste à ne pas être capable de parler de son propre salaire, par exemple. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en France. Les gens ne comparent pas leur salaire, contrairement d'ailleurs aux États-Unis, où c'est assez naturel de comparer ce qu'on vaut, en fait, sur le marché. Et en France, je pense que ça résulte de ce vieux poids judéo-chrétien qui consiste à considérer l'argent comme quelque chose qui échappe à l'empreinte de Dieu et qui donc serait intrinsèquement malfaisant et mal dès le départ. Mais vous savez, on a fait ce livre justement pour désacraliser l'argent. Et on l'a fait en bande dessinée parce qu'on s'est dit que c'était un très très beau sujet. C'est un très vieux moyen de communication, l'argent, encore une fois, je me répète. Et donc, il fallait absolument, à notre humble niveau, essayer de briser ce tabou et de parler de l'argent comme un phénomène historique et sociologique.
L'argent évolue aujourd'hui, et puis avec l'histoire d'ailleurs, on a compris, on est passé du coquillage à la pièce d'or, puis à la pièce dans un métal moins précieux, accompagné ensuite des billets, l'argent s'est ensuite dématérialisé, les chèques, les cartes bancaires, les virements, vous en parlez dans votre livre. On est aujourd'hui à une nouvelle étape, c'est celle de l'argent numérique avec le développement des crypto-monnaies, des monnaies qui échappent aussi aux banques centrales.
Oui. Mais ça, c'est la crypto-monnaie, c'est pas une nouvelle étape dans l'histoire de la dématérialisation de l'argent. C'est une forme de monnaie privée créée par ceux qui contestent le système. Les crypto-monnaies, elles sont nées après la grande crise de 2008, qui a été à l'époque, on l'a un peu oublié, mais qui a été une époque de contestation du rôle des banques centrales, que ce soit la Banque Centrale Européenne ou la Banque Centrale Américaine. On les a accusés d'être en grande partie responsables de la situation, ce qui était en partie vrai, en partie faux, ça c'est un autre débat. En tout cas, des activistes, on va dire libertariens, sur le net, ont décidé qu'il était temps de créer des monnaies privées qui échapperaient justement au contrôle des États. Et l'histoire des crypto-monnaies, c'est ça. Au départ, c'est d'abord une monnaie anarchiste, c'est-à-dire une monnaie dans le sens politique anarchiste, une monnaie qui veut échapper à l'empreinte des États modernes. Et je remarque deux choses. D'abord, ces monnaies ne se sont pas si développées que ça. Finalement, ça reste une monnaie parallèle, privée, mais qui a assez peu d'utilisateurs. Et deuxièmement, tous les spécialistes estiment que ce qui va survivre à cette histoire, c'est pas tellement la monnaie, sans doute que le Bitcoin a quelques dizaines d'années devant lui, pas plus. Par contre, la technologie qui sous-tend le Bitcoin, la blockchain, elle, a déjà commencé à peser de toute son empreinte dans notre vie de tous les jours, et véritablement est une technologie, qui donc est une émanation de cette monnaie, qui va durer dans le temps et qui sera très utile à toute l'humanité.
Vous avez fait d'ailleurs un clin d'œil dans cette bande dessinée, c'est que le narrateur finalement, c'est le Bitcoin.
Bah oui, c'est le mystérieux Satoshi Nakamoto, le mystérieux inventeur du Bitcoin, dont on ne sait pas s'il s'agit d'un groupe d'activistes ou d'une personne réelle ou d'un prête-nom. Bon voilà, c'est quelqu'un qui a disparu il y a 10-12 ans de la scène. Et voilà, il est devenu un petit peu légendaire. C'est une sorte de roi Midas moderne qui a disparu et qui donc, comme il a disparu, il est devenu éternel.
On a bien compris, vous ne pensez pas que le Bitcoin pourra remplacer un jour les monnaies d'État comme le dollar, l'euro ou le yuan. Est-ce que pour autant, vous croyez aussi à la fin du cash ?
Alors, non seulement je n'y crois pas, mais je fais partie de ceux qui défendent la survivance du cash parce que ça me paraît très important pour plein de raisons. En tout cas, ce que je constate, c'est que les tentatives d'abolition totale du cash ont été très rares et les rares États qui s'y sont risqués sont revenus en arrière. Bon, le cash, c'est quoi? C'est 5% de la masse monétaire, hein, entre 5 et 8% selon les pays. Donc, c'est devenu minuscule, mais ça reste très important. Et donc, je ne pense pas qu'à l'avenir, on n'ait plus de pièces et de billets dans nos poches. Au contraire, on va continuer à les utiliser, certes de manière minoritaire, parce qu'on fait essentiellement aujourd'hui des virements, des paiements par carte, un peu moins de paiements par chèque. Le chèque est un vieux moyen de paiement inventé par les Abbassides il y a 1200 ans, qui a eu une longue carrière, mais qui est en train de disparaître. Mais par contre, je pense que la monnaie pièce et billet a de beaux jours devant elle.
Ah, c'est un ouvrage, en tout cas, complet, documenté et passionnant, hein, si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'histoire de l'argent. Et vous n'oubliez pas, avec Tristan, d'être drôle. C'est pas parce que c'est un sujet sérieux qu'on ne peut pas en rire?
Bien sûr, et d'autant plus que c'est une bande dessinée. Et dans la bande dessinée, l'humour, c'est le carburant, comme on le sait bien.
Vous avez publié auparavant une incroyable histoire du vin, entre autres. Comment est-ce qu'on passe d'un bien qui nécessite d'avoir du nez à un bien, l'argent, qui, dit-on, n'a pas d'odeur?
Écoutez, nous, on a cette collection des incroyables histoires d'eux, et donc à chaque fois, j'explore un sujet différent, et on est passé des sujets plaisir aux sujets un peu plus complexes. Mais justement, avec la volonté de briser ce tabou sur l'argent, parce que l'argent, voilà, c'est un sujet passionnant, et c'est pas seulement quelque chose dont il faut avoir honte.
Merci Benoît Sima, auteur de l'incroyable histoire de l'argent aux éditions Les Arènes. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.